Les 11 en Mongolie. La grande aventure de la famille Duri.
Ici Louis-Philippe Duri. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment on se prépare à un tel voyage. Nous répondrons aux questions de mon petit frère Marc-Antoine.
C'est où la Mongolie? Qu'est-ce qu'on met dans nos bagages? Où est-ce qu'on va acheter nos chevaux? Est-ce qu'on prend nos sacs à dos? Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce qu'on va dormir dans la tente? Bon, je vais aller préparer ma valise. Est-ce que je peux t'aider à préparer le voyage, maman? On y va.
On va partir début juin. On a décidé de partager cette aventure avec vous tous à toutes les semaines. On va vous offrir nos beaux moments et nos moins beaux. Nos réflexions? Si on avait décidé de garder que le meilleur de notre aventure, on vous offrirait que des commentaires objectifs, sans sentiments et sans émotions. Mais c'est pas notre première aventure, hein, Marie-Michel?
Mais non, c'est pas la première. Depuis qu'on est jeune qu'on voyage.
Mais cette passion, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, maman?
Oh, t'as bien raison. Il y a à peu près 35 ans, je pense que je suis tombée dedans. Un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique. Mon père puis ma mère, ils m'avaient amené voir les grands explorateurs. On avait vu une conférence, une vidéoconférence avec un voyageur qui était parti en famille avec ses enfants. Il avait fait Ostende-Tahiti à la voile. Après cette représentation-là, je me suis dit dans ma tête, oui, moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc, la première étape, ça a été de me marier puis d'avoir les enfants. Et puis après ça, ben là, on a commencé les voyages en famille.
C'est qui a eu la première fois l'idée de partir en voyage?
De partir en voyage en Mongolie? Je dirais que c'est Guillaume. Guillaume, il est arrivé une journée, puis il a dit, « Hey, maman, toi qui as traversé les États-Unis à cheval avec papa, ça serait peut-être amusant que nous aussi, on traverse un pays à cheval, puis je pense que la Mongolie, ça serait un très beau pays, parce que les gens sont nomades, puis ils voyagent déjà à cheval. Qu'est-ce que t'en penses? »
Moi, ce que Guillaume m'avait dit, c'est que le Mongol, c'est encore une place dans le monde qui détient sa beauté. Surtout la langue. Je veux dire, le Mongol, le Turc, les autres dialectes. Je suis certain que ça va prendre beaucoup de plaisir à juste essayer de comprendre la langue.
T'as raison, Louis-Philippe. Les premières impressions de la Mongolie vont être importantes. Il va falloir qu'on se laisse apprivoiser. On va même en faire un sujet d'une émission. L'arrivée. Ça va être la semaine prochaine, ça, par exemple.
La Mongolie m'attire par son mystère, sa grandeur, sa puissance. Ça m'intrigue. C'est un pays de nomades avec des paysages à couper le souffle. C'est magique de pouvoir entrer comme ça au cœur d'un nouveau pays où on n'est jamais allé, même si les discussions vont se résumer à des échanges de sourires parce qu'on ne connaît pas la langue, ou plutôt les langues, le mongol, le turc, le russe, les autres dialectes. Je suis certain qu'on va prendre beaucoup de plaisir à se laisser porter par la vague. Comme souvent, le contraste avec les pays américanisés et capitalistes est étonnant. Tout se ressemble d'un pays à l'autre, mais rien n'est pareil pour autant. Et on peut même plus comparer les pays entre eux. Ici, les gens seront peut-être plus curieux et vont peut-être nous accoster sans pour autant essayer de vouloir notre argent, nous importuner. Il paraît qu'ils sont très accueillants. En Mongolie, les gens voyagent à cheval et aussi en petites motos qui transportent de 4 à 5 personnes en moyenne. Les motos sont chargées comme des camionnettes, de cochons, de poulets, de bambous de 5 mètres, etc. Puis sur les toits des bus, est-ce que les gens vont s'empiler aussi? En Inde, je sais que les gens font ça. Jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui va nous surprendre? Qu'est-ce qui va nous choquer, nous émouvoir ou nous faire sourire?
Voyager, c'est une question de préparation, donc c'est une entreprise de groupe. Par exemple, Charles, pourrais-tu me dire c'est où que ça se situe la Mongolie?
La Mongolie, ça se situe en Asie, entre la Chine et la Russie.
Et puis c'est quelle sorte d'argent qu'ils utilisent là-bas?
La sorte d'argent qu'ils utilisent là-bas, c'est le Tugrid.
Et puis comment t'as appris tout ça, Charles?
Par un projet que j'ai fait à l'école sur la Mongolie.
Oh, c'est amusant ça, quand tu peux incorporer tes projets d'école dans ton voyage. Il y en a qui ont pas eu cette chance-là. Toi, Marie-Michel, même si t'avais pas un projet d'école, est-ce que tu peux me dire sur la température en Mongolie?
Puisque on va être en pleine saison de pluie, avec le micro, ça va être difficile de vous faire parvenir l'humidité de nos cheveux mouillés et de les odeurs des tubas de mes frères.
Ouais, il y en a qui vont peut-être moins apprécier que d'autres. Surtout avec Daniel. Daniel, toi puis les chevaux, dis-moi-en sur les chevaux.
Ben, en Mongolie, on a choisi le moyen de transport, les chevaux. Parce que là-bas, ils n'utilisent pas d'auto, c'est juste des chevaux. Donc, il n'y a même pas de route pour les autos. Il y a juste des pistes pour les chevaux là-bas. Donc, on a choisi d'être à cheval.
Et puis, les chevaux, c'est où qu'on va les trouver? Est-ce qu'on va aller voir des différentes fermes équestres pour acheter les chevaux ou bien est-ce que ça va se faire?
Oui, on va aller voir de différentes fermes équestres pour aller voir les chevaux, pour les choisir.
Puis, est-ce que ça va être facile de trouver 11 chevaux?
Non, c'est sûr que ça va pas être facile.
Toi, Charles, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le pays?
Ben, moi, je pense que le pays, ça serait une belle expérience. Ça serait plutôt vaste. Et ça serait pas comme ici, vraiment, avec beaucoup de personnes. Je trouve que ça serait une belle expérience à raconter.
Avec toute la préparation, maman, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi qui nous attend avec ce voyage-là?
Je crois que principalement, on va faire de l'équitation, puis on s'attend à voir des beaux paysages, on va rencontrer des gens. Puis je pense que c'est la partie, moi, qui m'intéresse le plus, c'est aller rencontrer le peuple. C'est des gens qui vivent habituellement sans électricité, sans Internet, donc c'est complètement un mode de vie qui est différent. Puis entre chaque chevauchée, le soir, on va compter les uns sur les autres pour planter la tente, pour recharger les appareils électroniques pour le téléphone. Il y en a d'autres qui vont aller pêcher. Je pense que c'est toute une aventure qui nous attend.
Puis c'est quoi qui nous intéresse le plus? Je veux dire, il va y avoir aussi un aspect humain dans toute l'expérience. C'est quoi qu'on s'attend à découvrir? C'est quoi qu'on s'attend à voir?
Ben moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est sûr, c'est les rencontres avec les gens. Quand on va aller rencontrer les gens, même si on parle pas la langue, il paraît que les Mongols, c'est des gens qui communiquent beaucoup puis qui invitent, vu qu'ils sont nomades, dès qu'ils voient un étranger ou un autre Mongol, ils vont l'inviter puis ils vont aller partager avec eux autres. Le thé, ils vont nous offrir du thé au lait-salé, ils vont nous offrir du mouton. Donc, moi, ces rencontres-là, la façon dont les gens vivent, c'est ça qui m'attire. Puis je pense que c'est une bonne chose que vous autres, les enfants, vous puissiez voir qu'on peut vivre aussi des valeurs qui sont différentes de nos valeurs qu'on vit ici à la maison, au Canada. Là-bas, en Mongolie, les gens, ils ont rien. Ils vivent ensemble, donc on peut s'occuper facilement juste en étant entre nous puis à la rencontre des gens.
Mais on ne sauve pas des risques justement en restant avec du monde qui possède rien, je veux dire du monde qui aurait beaucoup à gagner à nous prendre de nous autres.
Ah ben t'as bien raison, je pense qu'on va avoir beaucoup de risques, ce qu'on pense juste qu'on va être à plusieurs distances du médecin par exemple.
Donc nos risques sont beaucoup plus dans le sens qu'on est à l'extérieur de la ville plutôt que la population elle-même.
Ben, j'ai pas l'impression d'avoir ben peur contre les gens. C'est sûr qu'ils vont probablement, on a lu sur les sites Internet qu'ils pourraient être attirés par nos chevaux. Donc, on s'est dit que peut-être qu'on ferait une veille de nuit, chacun notre tour, pour surveiller les chevaux. Mais je m'attends pas à d'autres risques, peut-être les accidents qu'on va avoir, des chutes de chevaux, un cheval qui va nous marcher sur le pied ou quelque chose comme ça.
Donc, en s'entendant du voyage, vraiment, nos plus gros dangers, c'est se blesser avec les chevaux plutôt que la population.
Ben, j'ai l'impression. Mais pour ce qui est de se blesser, on a quand même eu une bonne préparation.
C'est quoi que vous avez préparé avant le voyage et puis c'est qui était responsable de ça?
Moi, j'étais responsable de la trousse de sécurité, donc de faire toute la trousse avec tous les médicaments, la liste des médicaments. On a fait ça avec notre médecin de famille. Et puis vous autres, les trois gars, donc c'est Louis-Philippe, Raphaël et puis Jean-Christophe, on les a inscrits à un cours de secourisme. Donc, ils ont appris toutes les secouristes de base en cas d'accident.
Mais là, moi, on a les capacités de base de faire des premiers soins. Mais si c'est quelque chose de plus qu'on a besoin, si on a vraiment besoin d'une grosse intervention, c'est quoi l'accès la plus proche?
Disons qu'on a fait, on est trois de la famille ou quatre qui ont fait un cours pour apprendre à faire des sutures. Donc, si on a une fracture ouverte, on a des points de suture à faire. Marie-Pierre, elle sait faire les points de suture. Pierre, moi et Jean-Christophe. Donc, on a déjà cette première intervention de base-là. Puis après ça, on va avoir un téléphone satellite. Donc, on va être capable de rejoindre éventuellement quelqu'un pour venir nous chercher. Puis les gens, comme tantôt Daniel disait que les gens voyageaient à cheval, c'est vrai, les Mongols vont voyager principalement à cheval, mais on nous a dit aussi qu'ils voyageaient avec des petites motos et puis éventuellement avec des camions. Donc, je pense que ça serait possible dans un délai de peut-être de 24 à 48 heures de se rendre à la capitale en camion jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à voir un médecin si on en a besoin.
Donc, est-ce que je comprends si on avait décidé que le pire ou que le bon, on manquerait une partie de l'aventure? Hein? C'est surtout pour ça que, comme on a dit plus tôt, on va vous partager toute l'histoire. On va pas faire de censure, donc vous allez vivre les quotidiens avec nous autres. Peut-être les chicanes de famille ou bien les taquineries, mais on va dire que ça va être amusant. Avec une famille grande de même, Charles, est-ce que tu pourrais nous faire l'introduction de tout le monde?
Il y a le plus jeune, Marc-Antoine, qui a 7 ans. Il y a moi, qui a 12 ans. Et il y a ma grande sœur, Danielle, qui a 13 ans. Et il y a Marc-Michel, Marc-Pierre et Raphaël, qui ont toutes 16 ans. Après ça, il y a Louis-Philippe, qui a 19 ans. Après ça, il y a Jean-Christophe, qui a 22 ans. Après ça, il y a Guillaume, qui a 23 ans, mon aîné. Et il y a ma mère et mon père.
Ça en fait du monde. On va vous présenter notre voyage à travers Marc-Antoine, du haut de ses 7 ans, et puis aussi de Charles, du haut de ses 12 ans, sans oublier les parents. Donc, c'est plusieurs histoires différentes vues de chacun. À travers les adolescents, ça va être une histoire différente, surtout avec les journées difficiles, les longues, avec Daniel, Marie-Pierre, Marie-Michel et puis Raphaël. Les préparatifs, ça aussi, ça détient des craintes et puis des dangers. C'est quoi qu'on a planifié, maman?
Ben, les craintes qu'on peut avoir dans un voyage comme ça, je pense qu'elles sont nombreuses, mais je pense aussi qu'elles sont dans notre tête. Parce que on arrive là-bas puis on fait face au danger. S'il va y avoir danger, on fait face un à un, une fois, un danger à la fois. Si on rencontre la peur ou l'angoisse, des fois on va avoir le goût peut-être d'abandonner. On va peut-être aussi être tout tremble pendant une semaine puis on va tout vouloir s'en aller. Donc je pense que c'est surtout ça nos craintes qu'on va avoir à faire face. Mais je pense sortir de notre routine, ça va être encore plus amusant. On va avoir des défis à réaliser, puis des défis avec des ados. Des fois, ça en prend des bons. On peut pas juste aller au parc à côté. Donc, le voyage, on a hâte d'y aller.
Les préparatifs, c'est quand que ça a commencé, je veux dire? C'est quand qu'on a pris la décision pour partir, hein? Et puis, pourquoi la Mongolie?
Donc, les premiers préparatifs qu'on a eus, c'est dans le temps de Noël. On vous a annoncé qu'on partait en Mongolie.
Donc, c'est en janvier qu'on a pris la nouvelle. Pas de tour de table, la destination a été choisie. Puis ça, c'était depuis longtemps. C'était à Noël. Bonne année, et puis on commence à préparer. Qu'elle soit exaltante, joyeuse, surprenante, ou pleine de petites ou de grandes aventures, la Mongolie, c'est notre destination. Et puis, partir à 11, ça relève tout un défi. Il faut bien se préparer. Ça commence par les passeports et puis les visas. Le choix de bagages, les vêtements, la tente, le petit poêle, le matériel équestre, le choix de trajet, les personnes à contacter. Et c'est quoi que j'oublie? J'oublie quelque chose. Oui, la trousse de sécurité pour nous tous. Les prescriptions à prendre, le médecin à aller voir, la trousse à sécurité pour les chevaux. Et puis, avec tout ça, on a décidé de diviser la tâche. Par exemple, Jean-Christophe, il s'est chargé des équipements. Pourrais-tu m'en dire un peu, Jean-Christophe?
Non, les équipements de sécurité.
Pour la préparation informatique.
Pour la préparation informatique, il a fallu qu'on se procure un téléphone Iridium 9555 pour pouvoir envoyer nos émissions radio, pour pouvoir avoir Internet. Puis en même temps, ben ça prend pas juste d'Internet pour envoyer des émissions radio, ça prend de l'électricité aussi. Ça fait qu'il a fallu qu'on se procure des panneaux solaires avec une batterie pour recharger à partir des panneaux solaires.
Pour les matériels de camping, maman, c'est où qu'on a réussi à trouver ça?
On avait déjà le matériel qu'on avait utilisé l'année passée quand on avait été en Égypte ou quand on avait traversé le Canada en vélo. Donc, on avait déjà une certaine base. Puis on a complété avec une commandite qu'on a eue de l'accordé. Donc, on a eu deux tentes de l'accordé. Et puis, il nous manquait aussi quelques bottines. Là, toi, Louis-Philippe, tu t'es acheté une nouvelle paire de bottines. Sinon, à peu près, on était pas mal complet dans tout ça. De toute façon, on a chacun nos responsabilités, hein, quand on prépare un voyage comme ça. Moi, je suis pas capable de tout faire. Donc, chacun avait un rôle à jouer bien particulier, comme celui de Jean-Christophe. Lui, c'était de tout le matériel électronique. Toi, Marie-Michel, c'était quoi ton rôle?
Moi, il fallait que je m'occupe des équipements de cuisson. Donc, il fallait que j'apporte le petit poêle et le chaudron. Le petit poêle, il est quand même spécial à cause qu'on peut utiliser toutes sortes de gaz, comme par exemple le diesel. Et on a également acheté un autre petit poêle qu'on pouvait prendre tout le matériel, comme par exemple du crottin de cheval et qu'on pouvait utiliser également comme combustible.
Ouais, apparemment, c'est plus particulier du crottin cheval que du bois en Mongolie, donc ça va être plus facile à trouver.
Donc ça, c'était la partie à Marie-Michel. Ouais. Toi, Daniel, c'était quoi ta partie?
Moi, j'avais préparé la trousse de sécurité pour les chevaux. Donc, il y a quelques affaires, la bande de repos.
Comment t'as fait pour te préparer?
Ben, premièrement, j'ai été faire des recherches sur Internet pour trouver qu'est-ce qu'il fallait mettre dans une trousse de sécurité. J'ai appelé le vétérinaire pour lui demander qu'est-ce qu'il faut mettre dedans.
Après ça, on l'a acheté.
C'est ça.
Toi, Charles, qu'est-ce que t'avais à préparer?
Moi, j'avais à préparer la trousse de toilette avec ma cotonne.
Qu'est-ce que t'as mis dans ta trousse de toilette?
Un miroir, une broche à cheveux, un rasoir, de la pâte à dents.
Quelle sorte de savon qu'on a?
On a du savon Lush. C'est la compagnie Lush qui nous ont commandité pour les savons à cheveux.
Mais ces shampoings-là, il y a quelque chose de spécial, non?
Ah oui, ces shampoings-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est des shampoings bio.
Et puis, je veux dire, est-ce que tu l'appliques de la même manière qu'un ancien, qu'un shampoing traditionnel ou bien?
Non, tu l'appliques un peu comme un savon. Tu le mets dessus tes mains parce que tu te frottes les cheveux avec.
Donc, c'est un shampoing dur?
Comme une barre de savon.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est un shampoing dur. Est-ce que ça mousse bien? L'as-tu déjà essayé?
Oui, j'ai déjà essayé. Ça mousse bien.
Puis, ça prend moins de place qu'une bouteille.
Ouais, c'est bien vrai.
Mais pour toute la paperasse qu'il fallait acheter, c'est qui a établi le budget? C'est qui a décidé qu'on a besoin de telle chose ou telle chose? Je veux dire, avec votre expérience à cheval pour toi puis papa aux États-Unis, est-ce que vous aviez une idée pour c'est combien que ça allait coûter?
Ben, disons combien que ça coûte. J'ai plutôt contacté des gens qui sont en Mongolie. Je suis en contact avec un orphelinat chez qui on va aller les premiers jours. Puis c'est eux autres qui m'ont donné une idée, un estimé de la nourriture, des coûts. Puis après ça, on a regardé pour trouver nos billets d'avion. Après ça, j'ai tout ajouté les effets de camping qui nous manquaient. Puis ce qui nous manquait aussi, c'est un imperméable. Parce que quand on voyage comme ça, on voyage de façon très, très léger. On a droit à un pantalon d'équitation, par exemple. On a droit à un pantalon normal, un T-shirt, une chemise, une veste polaire. Puis, il nous manquait un imperméable. Donc, c'est la compagnie Canuck qui nous ont fourni l'imperméable. C'est un imperméable qui s'appelle le parapluie. Puis, nous, notre caractéristique, c'est qu'on s'habille tous de la même façon. Donc, on a tous la même couleur. On l'a pris rouge. Donc, pourquoi rouge? Parce que quand on se promène, depuis que les enfants sont tout petits, je trouvais ça plus facile de les repérer si on avait tous un gendail rouge, par exemple. Donc, quand on a traversé aussi le Canada en vélo, on avait un polar rouge, puis les gens qui nous rencontraient sur la route, ils disaient « Ah, ça, c'est la famille des rouges, c'est la famille des rouges. » Donc, ça vient de là. Donc, on a eu notre canuc rouge, parapluie. Puis on a eu d'autres choses, hein, Daniel? Dans ce qui concerne l'équitation, on a eu un équipement qui est très utile.
Des pro-chaps. Ils nous ont commandité pour les chaps. C'est comme une...
Une guêtre.
Une guêtre, c'est ça, qu'on met autour de la jambe pour pas que notre jambe frotte sur la selle, parce que la plupart du temps, ça fait mal.
Après, sur l'étrier, hein, quand ça accote.
Sur l'étrier, c'est ça. Quand ça accote. Donc, avec ça, ça fait pas mal, ça frotte pas. Puis, ça protège la jambe pour pas qu'on ait des éraflures ou quoi que ce soit.
Mais pour l'itinéraire qu'on a actuellement, c'est qui a pris la décision finale de voler jusqu'à Moscou plutôt que voler directement au Ulaanbaatar, hein?
Ah oui, ça, c'était compliqué. On est parti... On a fait nos recherches sur Internet. Puis avec les billets d'avion, on s'est aperçu que ça coûtait presque le double si on faisait juste la partie de Moscou à Ulaanbaatar ou de Beijing à Ulaanbaatar en avion. Donc, on s'est dit, on va essayer de prendre un plan B pour que ça nous coûte moins cher. Ce qu'on a regardé, c'est les départs de Moscou en train pour prendre le transsibérien. Donc, il y a une partie qui s'appelle le transmongolien qui s'en va par la Mongolie. Puis après ça, ça continue jusqu'à Beijing. Dans le fond, on traverse complètement le continent par l'Orient Express. Donc, cette idée-là plaisait pas mal aux enfants puis à nous autres aussi, les parents. Donc, on s'est orienté un peu pour ça. Après ça, ça a été l'aventure des visas.
Pour l'aventure des visas, c'est qui a procédé à remplir les papiers et puis faire l'ensemble des projets? Jean-Christophe, pourrais-tu me dire là-dessus?
Ben, on a rempli les papiers qu'on a trouvés sur Internet, là. Pour les trouver, ça a quand même fallu un petit peu de complications, là. Moi-même, j'avais de la misère à comprendre leur principe parce qu'il y a plusieurs sites web qui offrent plusieurs formulaires. Ça fait qu'on a trouvé un qui avait de l'air plus ou moins formel. Donc, on a pris celui-là, on l'a rempli chacun, on a tout rempli. Après ça, on s'est présenté au consulat très tôt le matin pour ne pas trop attendre. Après qu'on s'est présenté là-bas, ben on a attendu, même il y avait une petite file d'attente, puis on a attendu une trentaine de minutes, puis après on a pu présenter nos papiers, puis après les avoir présentés, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas conformes. Donc on a demandé qu'est-ce qui n'était pas conforme. Il y avait les signatures qui n'étaient pas en encre noire qu'il fallait, ils étaient en encre bleue. C'était pas le bon formulaire. Donc on a dit OK, c'est bon, on est retourné chez nous. Puis là, on a essayé de trouver le bon formulaire. On ne l'a pas trouvé. On a appelé à l'ambassade. Après avoir parlé à 5-6 personnes, on a finalement réussi à avoir l'adresse Internet du visa qu'il fallait remplir. Puis là, à partir de là, on a pu le remplir puis aller les compléter.
Donc, est-ce que je comprends trouver une invitation pour la Russie, ensuite trouver les papiers sur Internet qu'on a le droit de remplir et puis les bons papiers. Et puis même en appelant, on a eu de la difficulté à faire les visas. Donc, on peut dire que même faire les visas, c'est une aventure en elle-même.
Mais heureusement, pour le visa de la Mongolie, ça a été beaucoup plus simple. Moi, j'ai rempli les papiers sur Internet. Je les ai postés à Ottawa. Et puis après ça, quelques jours après, ben je m'attendais à recevoir les visas, mais ils arrivaient pas. Nos passeports arrivaient toujours pas. Donc, j'ai téléphoné à l'ambassade de la Mongolie à Ottawa. Puis là, la dame, elle me dit en anglais, « Ben non, dis-moi, j'envoie pas ça. Il faut que vous veniez les chercher. » Ben là, j'avais pas le goût ben d'aller à Ottawa. Alors, elle dit... appelé un transporteur. Donc, on a trouvé un transporteur qui a été chercher nos visas, nos passeports, puis après ça, on les a reçus, mais je m'attendais à les recevoir plus tôt, donc ça a pris presque une semaine de plus.
Donc, est-ce que je comprends, c'est toute une aventure, les passeports. Pour les passeports, les visas de la Chine, c'est quoi qu'on a fait?
Bien, pour les visas de la Chine, on va essayer de les avoir avant de partir parce qu'on les a pas encore. Puis si on n'arrive pas à les avoir, parce qu'on est dans un délai un peu plus court à cause des petits problèmes qu'on a eu avec le visa de la Mongolie et le visa de la Russie, on a prévu les faire là-bas en Mongolie, parce que c'est le retour. Donc, on va en premier, on part par Montréal-Moscou. Après ça, on va faire Moscou-Oulan-Bator, qui est la capitale de la Mongolie. On va faire ça en train. Là, on va faire notre séjour à cheval en Mongolie. À la fin, complètement... on va reprendre la partie du train qu'on n'avait pas pris. On va aller vers la Chine, à Beijing. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin du visa pour rentrer en Chine. Mais on va avoir un petit séjour aussi à Oulan-Bator où est-ce qu'on va pouvoir les demander. Puis on espère que ça va bien aller.
Donc, à ce que je comprends, c'est essentiel d'avoir des bonnes informations. Puis la plupart, on les a trouvées sur Internet. Est-ce que tu peux m'expliquer sur le site web du voyage qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, Jean-Christophe, pour partager notre aventure?
Oui, on s'est fait un site web pour partager notre aventure. Puis c'est Léonze. LES11.com, puis on a décidé d'expliquer un peu tout ce qu'on faisait, d'expliquer c'est quoi qu'on allait apporter, d'expliquer qu'est-ce qui allait se passer, des petits résumés, puis on va avoir aussi des nouvelles qu'on va mettre sur le site Internet.
Donc, à ce que je comprends, il y avait une grosse partie de préparation à l'avance. Daniel, pourrais-tu m'expliquer sur l'entraînement qu'on a suivi, justement pour pouvoir être bon une fois qu'on est rendu en Mongolie pour l'équitation?
Ben, en fait, on a déjà deux chevaux à la maison. Et puis, ceux qui savent pas...
qui savent pas bien monter.
Exactement. Ils se sont pratiqués sur les chevaux. Et puis, au fur et à mesure, ben, on monte quasiment tous les jours. Et puis, après quelques jours d'entraînement, ils prennent de l'expérience.
Moi puis toi, Daniel, on a eu une aventure assez particulière. Pourrais-tu m'expliquer c'est quoi qui nous arrivait quand on s'entraînait?
Eh bien, les chevaux sont partis au galop. C'est tombé d'un cheval. Et puis, le cheval s'est blessé. Donc, ça s'est fini plutôt rapidement.
Oh, moi, j'étais correct avec ça. C'est juste le cheval qui s'est blessé, puis moi, j'étais correct. Donc, tant que c'est pour ma peau. Marc-Antoine, est-ce que tu peux m'expliquer un peu sur comment qu'on va se nourrir là-bas?
Ben, on va manger de la chèvre et on va boire du lait de jument.
Est-ce qu'on va avoir des fruits puis des légumes?
Un petit peu.
Un petit peu. Donc, on va avoir des pommes, des bananes, puis des oranges, puis des ananas. Mais à la part la viande de mouton, est-ce qu'on a un autre moyen de trouver de la nourriture? Hein?
Oui, en poisson.
On va manger du poisson?
Oui.
Ça veut dire qu'on va pêcher toute la famille?
Oui.
Hey, t'as-tu ta canne à pêche, toi, Marc-Antoine?
Non.
Ah, il va falloir t'en trouver une. Donc, c'est toute une aventure. Mais si on veut suivre un peu plus que la radio, c'est où qu'on pourrait s'informer?
Sur notre infolette Crains de folie, vous pouvez vous inscrire sur notre site web les11.com, LES11enchiffre.com. Je répète, LES11enchiffre.com.
Merci, Daniel. Et puis toi, Marie-Michel, il y a quelque chose que tu me dis que tu veux...
Nous vous invitons aussi à lire la presse que ma mère, elle écrit un article chaque samedi dans la section voyage.
Donc, comme Daniel et puis Marie-Michel nous ont dit, vous pouvez lire plus sur notre aventure avec la presse ou le site web les11.com, donc LES11.com. Merci beaucoup, et puis on se voit la semaine prochaine.
Bye.
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 Au revoir.
Чагай шигэдэн адуу маннай адуу.